je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Eh bien bonjour, vous êtes dans l'actualité des luttes et aujourd'hui on est en direct et on accueille à la fois Victoire, Isabelle et Valérie. Et on va parler aujourd'hui avec elles des formations bidons proposées par France Travail. Voilà, et donc Isabelle et Valérie en ont fait les frais. Elles vont venir un peu nous raconter comment ça s'est passé, les attentes qu'elles avaient, et puis malheureusement des attentes déçues, hein, et leur mobilisation pour essayer d'arranger un peu cette situation qui est dramatique pour vous. On va commencer peut-être avec Victoire. Victoire, donc, tu es de la CGT chômeur, on peut dire ça ?
Oui,
carrément. Ouais, parce qu'après, il y a des CPT, machin, bon, c'est compliqué. Donc, de la CGT chômeur. Vous accompagnez donc cette trentaine de femmes, à peu près, qui ont fait cette formation totalement bidon proposée ou imposée par France Travail. On parlera après avec Véronique, et Valérie et Isabelle de ça. Mais avant ça, on avait envie de faire un petit topo quand même, parce que France Travail, bon, bah voilà, c'est quoi ? Ça représente combien de chômeurs précaires, RSistes ? Toutes les contraintes qui ont vu le jour avec la création de France Travail.
Oui, France Travail a été mis en place par la loi dite pour le plein emploi en décembre 2023 et s'est généralisé au 1er janvier 2024. Donc déjà, le contexte, qu'est-ce que le chômage en France aujourd'hui ? Parce que c'est quand même important d'en parler. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont inscrites en catégorie A à l'assurance chômage, c'est-à-dire des gens qui ne travaillent pas du tout. Plus, vous ajoutez à ça à peu près 2 millions de RSistes qui ne travaillent pas non plus ou alors qui travaillent de manière très intermittente un certain nombre, environ 3 millions aussi, de travailleurs précaires, c'est-à-dire des gens qui alternent notre chômage à emploi systématiquement du fait de la structure même du, entre guillemets, marché du travail aujourd'hui. Ce contexte-là, il se dégrade à grands pas. Donc le chômage de masse est un problème depuis très longtemps, mais il se dégrade à grands pas avec la deuxième vague de désindustrialisation qu'on connaît aujourd'hui, avec 300 000 postes à minima qui ont été supprimés ou qui vont être supprimés dans les mois qui viennent. Parallèlement à ça, le marché du travail, entre guillemets, depuis une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, c'est une précarisation à marche forcée. Aujourd'hui, plus de 90% des contrats signés sont des CDD. Et parmi ceux-là, une grande majorité sont des CDD de moins de un mois. Donc en fait, aujourd'hui, dans le privé comme dans le public, les salariés sont de plus en plus précarisés, ce qui a un impact, y compris sur leur niveau de vie et sur l'assurance chômage. Parallèlement à ça, plutôt que justement de prendre en compte ce contexte, le gouvernement met en place tout un tas de réformes de l'assurance chômage depuis plusieurs années, qui, plutôt que de les protéger davantage du fait de l'augmentation de la précarité, en fait tapent de plus en plus fort sur les chômeurs et les travailleurs précaires. Donc il y a eu une baisse du montant de l'indemnisation, une baisse de la durée de l'indemnisation, un durcissement des conditions d'ouverture de droit, là ils mettent en place France Travail, la grande nouveauté, donc la loi pour le plein emploi, ce qui fait rigoler un peu tout le monde, sauf les gens qui sont au chômage, qui en fait est à la fois dans la continuité de ce qui était déjà mis en place précédemment, mais qui représente quand même un certain nombre de nouveautés. Les nouveautés, c'est que c'est axé sur le contrôle accru. Donc là, Attal le disait l'année dernière, donc Attal n'est plus Premier ministre, ceci étant dit, ce qu'il avait décidé est en train de mettre en place, c'est-à-dire la multiplication par 3 du nombre de contrôles de recherche d'emploi, pour atteindre 1,5 million de contrôles de recherche d'emploi en 2025 et dans les années qui viennent. D'ailleurs, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait ça ne donne pas lieu à plus de radiation au niveau numérique, donc ce qui montre bien qu'en fait finalement les privés d'emploi cherchent du travail, simplement c'est une mesure cosmétique pour aller dans le sens finalement du discours patronal et du gouvernement selon lequel les chômeurs et les travailleurs précaires sont une bande de grosses feignasses qui ne veulent pas travailler et qu'il faut remettre au travail de manière forcée. Il y a aussi...
Je voulais juste quand même préciser, comme ça, te couper deux secondes pour voir, pour on en parle une fois de plus quand même, mais de voir à quel point le numérique et les algorithmes sont vraiment une possibilité pour les institutions, le gouvernement, etc., de fliquer toujours plus. Il y a vraiment une dimension sécuritaire qui prévaut sur cette histoire de numérique. Parce que 1 500 000 contrôles, c'est possible grâce à la numérisation des fichiers.
Si tu veux, tout est. La mise en place des algorithmes et le passage au tout numérique a amplifié un phénomène. Les contrôles, oui, aujourd'hui, sont de plus en plus dégradés et c'est surtout sur le choix des personnes qui vont subir ces contrôles-là. Il y a une partie qui sont choisies par des algorithmes en fonction de critères. Alors pour Pôle Emploi, c'est pas encore. Enfin pour France Travail, c'est pas encore tellement le cas. Mais comment ils s'appellent là, la quadrature du net avait fait une enquête sur les allocataires du RSA et sur le choix des contrôles CAF sur les allocataires du RSA, et il avait été prouvé que les algorithmes étaient discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils visaient en priorité des femmes isolées, des personnes racisées, des choses comme ça. Donc du coup ils ont réussi à faire attaquer les algorithmes utilisés par la CAF grâce au travail qu'ils ont fait. Je les salue pour ça, et ça va se généraliser à France Travail aussi. Mais oui, aujourd'hui, la numérisation sert à contrôler davantage et, sous prétexte d'individualisation, en fait, de faire disparaître totalement le facteur humain dans la prise en compte des situations individuelles des privés d'emploi, puisque chaque situation est différente. Quelqu'un va être en incapacité de chercher de l'emploi, non parce qu'il n'a pas envie de trouver du travail, mais parce qu'il est proche aidant, parce qu'il a des problèmes de santé, parce qu'il a des problèmes de logement, parce qu'il a des problèmes de déplacement. Et ça, un algorithme n'est pas capable de le prendre en compte. Tandis qu'un être humain, oui. Mais aujourd'hui, ils veulent pas du tout, comme ils veulent supprimer le nombre de travailleurs de France Travail, enfin, je veux dire, objectivement, proportionnellement au nombre de privés d'emploi, on va pas du tout dans le sens de plus de conseillers, de plus de relations humaines à l'intérieur de France Travail, on va bien plutôt dans l'autre sens.
Ou même, puisque c'est un peu le sujet de notre émission, de formation qui forme vraiment, qui permettent après d'accéder à éventuellement un reclassement, un autre travail.
Oui, parce que le deuxième volet de France Travail, alors je ne vais pas expliquer par quel mécanisme parce que ce serait un peu compliqué, c'est de poursuivre la privatisation du service public de l'emploi par tout un tas de mécanismes. Et privatisation qu'on dénonce déjà depuis des années, parce que non seulement puisque finalement c'est énormément d'argent, non seulement public, c'est-à-dire par les biais des impôts, mais c'est l'argent des cotisations, donc l'argent de l'ensemble des travailleurs qui est utilisé pour sous-traiter des missions de services publics à des prestataires privés dans le cadre de l'accompagnement des privés d'emploi. Aujourd'hui, quelqu'un qui est considéré comme autonome dans sa recherche d'emploi, aujourd'hui s'inscrit à France Travail, il ne voit plus son conseiller, il est envoyé directement vers un prestataire privé qui va l'accompagner. Et c'est valable aussi pour les organismes de formation professionnelle. Et depuis 2018, il y a eu une libéralisation du marché de la formation professionnelle avec la monétisation des droits à la formation professionnelle, ce qui a généré en fait l'existence de plein de petites boîtes et de grosses boîtes aussi, parce que les leaders du marché sont quand même les grosses boîtes d'intérim en définitive, ce qui pose beaucoup de problèmes puisque c'est des formations de très mauvaise qualité avec des gens avec des salariés ou des gens, les travailleurs de ces formations-là, ces organismes de formation sont extrêmement maltraités. Et ça donne lieu à tout un tas d'arnaques, puisque parallèlement, en fait, on leur sous-traite de l'activité, donc on leur donne des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Hein. Je veux dire, juste pour l'accompagnement, pour l'insertion, je ne parle pas de la formation, en 2023, c'était 1,6 milliard d'euros qui avaient été transférés des caisses de l'UNEDIC vers le privé. Caisses de l'UNEDIC qui sont nos cotisations et ça sans quasiment aucun contrôle, ou alors un contrôle très insuffisant de la part des organismes publics financeurs,
non, que ce soit la région ou France Travail. C'est quand même vite fait se foutre un peu de la gueule du monde, parce que proposer des formations pour faire des CV et savoir vers quelle branche s'orienter, etc., quand on sait qu'il n'y a pas de boulot au bout d'un moment, c'est cocasse, voilà, absolument.
Mais après, c'est valable aussi pour la formation professionnelle, parce que là, il y avait tout un discours gouvernemental qui disait, voilà, on a quand même conscience qu'il y a des gens qui ont des freins à l'emploi, qui manquent de qualifications, donc on va les envoyer notamment vers les métiers en tension et on va les former. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils les envoient dans des formations qui ne les forment pas et qui ont des conséquences. On va en parler avec Valérie et Isabelle tout à l'heure. Ça a des conséquences sur leur, entre guillemets, employabilité. C'est-à-dire que quand vous venez d'un organisme de formation tout pourri, en fait, c'est...
T'as perdu ton temps.
C'est 10 000 euros qui va être financé et qui va rentrer dans les poches de petits escrocs, mais qui finalement va pas servir à aider la personne pour que vraiment elle trouve du travail. Et juste le troisième volet de la loi pour le plein emploi, parce que c'est une question importante, c'est l'allocation contre activité. Alors je précise bien l'allocation contre activité, parce qu'on dit c'est RSA contre activité, mais en fait en réalité ça va concerner l'ensemble des gens inscrits à France Travail.
Carrément, ça c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment préciser, ça concerne tout le monde.
Ça concerne tout le monde. Ils le mettent en place de manière progressive, pour le moment tout le monde n'est pas encore tout à fait concerné, les sanctions seront les sanctions, c'est-à-dire que si vous refusez de faire ces 15 heures d'activité ou plus par semaine, vous pourrez être radié par France Travail, c'est-à-dire perdre un mois, deux mois, trois mois, voire 6 mois d'indemnisation. Pour le moment, c'est pas encore, le décret n'est pas encore sorti. Ce sera au 1er juin. Mais ce RSA, allocation contre activité, a des conséquences, puisque d'une part, c'est une manière d'envoyer des gens dans l'insertion par l'activité par l'activité économique, l'immersion en entreprise, donc peu ou prou du travail gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir des entreprises qui, pendant quelques mois, vont pouvoir utiliser des allocataires du RSA ou des allocataires de l'assurance chômage pour remplacer des salariés. Et d'autre part, pour ceux qui ne seraient pas en immersion en entreprise, vont être envoyés vers ces organismes de prestations privées et ces organismes de formation privée. Donc ça va amplifier le phénomène de transfert massif d'argent et des impôts et des cotisations sociales vers le privé. Au détriment de France Travail, qui, lui, dont les agents réclament depuis des mois et des mois des augmentations d'effectifs, et qui se voit, non recevoir de la part de la direction de France Travail. Pire que ça encore, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train d'augmenter drastiquement le nombre de contrôleurs de la recherche d'emploi. À effectif constant, c'est-à-dire qu'en fait, ils suppriment des postes de conseillers placement et des conseillers indemnisation pour les transférer vers le contrôle de la recherche d'emploi, donc vers le tout répressif.
Ça fait penser un peu à ce qui se passe aussi à la RATP.
Ouais,
t'as plus de guichet, mais t'as plein de contrôleurs.
Donc la logique de tout ça, nous, c'est comme ça qu'on l'analyse dans notre syndicat, c'est qu'il s'agit en fait finalement d'affamer de plus en plus les chômeurs et les précaires pour les contraindre en fait à accepter n'importe quel poste à n'importe quel prix, dans notamment les secteurs en tension qui ne sont pas en tension pour rien, c'est que c'est les secteurs avec les conditions de travail les plus dégradées, les salaires les plus bas, les plus précaires, et que de l'autre côté parallèlement, c'est aussi transférer finalement l'argent des cotisations des poches des chômeurs pour qu'ils puissent survivre, vers finalement des boîtes privées. Ouais. Sachant que bon, il y a une contradiction aussi là-dedans en ce moment, puisqu'avec l'austérité budgétaire, aujourd'hui, tout le discours sur la formation professionnelle qu'avait tenu le gouvernement en disant bon, on donne quand même une contrepartie, on casse le droit des chômeurs, mais la contrepartie c'est qu'on va vous former, que vous allez trouver du travail.
Ouais.
En réalité, il n'est pas mis en place, puisque là, on le voit juste même à l'échelle de l'Île-de-France, la région Île-de-France vient de supprimer, vient de suspendre toutes les dispositifs IRE qui consistent en fait à financer.
IRE, excuse-moi.
IRE qui sont en gros des systèmes de financement de la formation professionnelle et ils viennent de suspendre ça.
Exact, mais tout à
fait. Et donc ce qui a expliqué une petite partie du problème qu'ont rencontré les filles à IDECO formation pour des raisons budgétaires, alors que en même temps le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle augmentation encore du budget militaire. Donc on va utiliser l'argent de l'État non pas pour former des gens, mais pour acheter des obus et pour acheter des armes, qui seront utilisées en partie, notamment pour envoyer à l'État d'Israël qui est en train de commettre un génocide sur le peuple palestinien. Voilà, il faut avoir conscience de où va l'argent public et ça servira aussi à ça.
Carrément. Et c'est fou parce que la plupart des gens, souvent quand tu discutes, mais oui, mais il n'y a plus d'argent, comment faire ? Et là, on se rend compte, par exemple, que l'argent est excessivement mal employé. C'est-à-dire, l'argent, il y en a. Mais il est employé n'importe comment.
Bah, quand on dit que Macron est le président des riches, c'est que très très clairement, le gouvernement aujourd'hui et une grosse partie quand même de la classe politique qui est au pouvoir, est en train volontairement de transférer cet argent-là vers la poche des riches, vers la poche du privé.
De ceux qui en ont
et
déjà.
Et notamment dans le cadre du budget militaire, dans la poche du complexe militaro-industriel.
Et Joël, tu vas nous mettre une petite. Tu voulais rajouter un truc ? Ah bon, alors après la pause musicale, on attaque cette fameuse formation. Vous êtes toujours dans l'actualité des luttes et on poursuit donc sur ces histoires de formation bidon proposées par France Travail. Et avec nous, on a Isabelle et Valérie qui ont été, on va dire, victimes. Hein. Vous avez dû subir ces formations. Donc on va un petit peu voir quel type de formation, comment ça s'est passé pour chacune d'entre vous. Qui commence ?
Eh bien, d'abord, bonjour.
Vas-y, de toute manière.
Non, je l'ai justement laissé Isabelle commencer, donc bonjour.
Qu'est-ce qu'on pense, Isa ? Vas-y,
oui.
Isabelle.
Bonjour. Donc, étant ancienne aide-soignante, j'ai été reconvertie en secrétaire pour faire une formation de secrétaire médicale. Et donc, j'ai reçu un premier mail par un conseiller d'entreprise de France Travail. qui déjà ne fonctionnait pas très bien, ce mail. Donc déjà, il y avait...
Peut-être anguille.
Déjà, anguille sous roche. Et donc, il y avait l'adresse mail de ce fameux centre de formation. Et donc, j'ai envoyé ma candidature. Et de suite, on m'a dit une date pour un entretien qui a duré à peine 5 minutes. On m'a dit, vous êtes déjà dans la formation. Donc, j'avais emmené quelques papiers, ma carte d'identité, mon diplôme d'aide-soignante, on me le demandait. Voilà. Et puis, je suis repartie comme je suis venue. Et puis, après, on a reçu un premier mail pour nous dire que la fameuse pré-rentrée était le 5 septembre, sauf qu'ils se sont trompés. C'était la veille. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Valérie.
Il n'y a eu que des trucs.
Voilà,
que
déjà,
des trucs
que
bizarres,
des petites incohérences.
Au niveau des horaires, au niveau des dates, au niveau de tout. C'était vraiment pas clair, apparemment. Non. Alors, pourquoi tu voulais changer? Parce qu'on se l'est dit, mais je trouve que c'est important parce que tu as plein de professions comme ça qui sont assez dures, qui, au bout d'un moment, avec l'âge, deviennent physiquement impossibles à réaliser. Et c'est pour ça que tu voulais changer de travail.
J'ai commencé déjà. J'ai préparé l'école d'infirmière à la base, normalement, voilà. Donc le chemin de vie a fait que il fallait que je travaille. Je suis arrivée élève infirmière à mon stage et je suis jamais repartie. Ils m'ont donc pris en CDI et de là j'avais le niveau aide-soignante, mais moi je voulais avoir vraiment le diplôme, donc j'ai fait une formation professionnelle. Et donc j'ai fait cette formation pendant un an et puis après, j'ai changé, j'ai démissionné. L'histoire des 35 heures, je me suis rapprochée de chez moi. Mmh. Et puis, j'ai eu un accident domestique après mon second emploi. Et donc, j'ai été licenciée pour inaptitude à mon poste. Donc, j'ai été reclassée. Mmh. Et donc, j'ai demandé à faire une reconversion professionnelle en tant que secrétaire médicale.
Voilà, tu voulais rester à peu près dans la même branche.
Parce que j'ai besoin toujours cette relation soignant-soignée. Mmh. Malgré qu'en tant que secrétaire, après, ça dépend sur quel lieu on travaille. Mais des fois, on n'a pas trop le contact avec les soignés, comme on dit.
Ouais. Donc voilà pourquoi. Et toi, alors
Alors moi, je suis arrivée de Belgique il y a 10 ans, mais mes diplômes ne sont pas reconnus ici. Donc j'ai un diplôme d'employé de bureau. Donc j'ai demandé, en fait, soit une validation des acquis. Et puis, en fait, je me suis dit, pourquoi pas refaire une formation. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers secrétaire médico-social. Moi, c'est plutôt le médico-social que le médical en hôpital. Mmh. Et j'ai demandé, pour ma part, j'ai demandé cette formation. Et comme Isabelle, j'ai reçu une invitation au mois d'août, fin août. Et comme Isabelle, j'ai passé le même entretien, entre guillemets, bidon, avec mon CV, en expliquant un peu que j'avais fait du secrétariat, mais... En fait, ils en avaient rien à faire, toi. Donc,
ils voulaient remplir leur stage.
Vraiment, je pense sincèrement qu'ils n'ont même pas regardé nos CV. Et en effet, on m'a dit détendez-vous, vous êtes tout de suite prise. Voilà. Et tout de suite, ça a été parler d'argent. Enfin, voilà, des droits qu'on aurait. Mais encore une fois, là, on se rend compte, peut-être ils nous ont pas dit la vérité sur nos droits. Donc, on nous a endormis et ça a dû. Oui, ça m'a moi aussi 10 minutes, peut-être. Oui. Mmh. En plus, on a été reçus. Excusez-moi, je vous coupe. Mais on a été reçus par une secrétaire en alternance qui, à mon avis, ne savait pas grand-chose. Et avec un directeur qu'on a vu de très très loin, on s'est douté que c'était lui, mais c'était vraiment bâclé, quoi. Donc déjà moi aussi j'ai tiqué, mais bon, j'ai plus tiqué après quand même.
On va voir tous les tics que vous avez pu supporter.
C'est ça.
Mais je voulais juste préciser quand même, puisqu'on en a parlé, c'est que vous aviez envie de faire cette formation, ce qui n'a pas été le cas de
exactement,
toutes les personnes,
voire de la plupart des personnes qui ont demandé autre chose ou qui étaient dans autre chose et qui a fait ce choix d'aller là parce que ça vendait du rêve, c'était bac plus 2 sur papier, sur le site, c'était bac plus 2.
Le stage, la formation, elle permettait d'accéder à un bac
plus 2. C'est ce que disait le site internet, tout au moins. Voilà. Mm-hmm. Donc après, évidemment, on ne nous l'a plus annoncé comme un bac plus 2, voire un bac, voire une sortie, même un BEP, CAP. Donc, c'était vraiment...
Très en deçà de votre niveau.
Très dégressif, oui.
En plus. La plupart des femmes qui ont fait partie, une trentaine, de cette formation, elles ne souhaitaient pas particulièrement la faire.
Non.
Elles avaient fait même d'autres choix et on leur a un peu imposé quelque part cette formation.
Tout à fait, mais pour moi c'est ça. Puis en plus, si je dois faire une petite parenthèse sur les femmes, c'est quand même des mamans, certaines sont mamans solo, avec des enfants très en bas âge. Moi je sais de source sûre qu'il y avait une dame qui avait un bébé de 3 mois. Donc c'est vraiment, je pense que quand on a un bébé de 3 mois, on ne fait pas forcément ce choix-là tout de suite. Donc ça a été imposé, quoi. Donc,
Bah après, il y en a qui ça a été imposé, mais en fait, il y en a beaucoup à qui ça a été vendu comme un moyen de sortir de la précarité. Parce que, en fait, la spécificité de ce groupe de stagiaires, c'est que beaucoup étaient en fin de droit. Donc, comme disait Valérie, avec des enfants en bas âge, donc qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps, et qui, en fait, voyaient vraiment cette formation, parce que comme c'est un métier en tension, secrétaire médico-social, voyaient cette formation comme un moyen de sortir de la merde, quoi. Et que, du coup, on leur a vendu comme ça. Et en fait, finalement, bon, si on s'était pas battu, elle serait aujourd'hui. En fait, encore plus dans la merde. Et ça, on va raconter la suite de l'histoire. Mais encore plus dans la merde.
Alors, cette formation.
Cette formation, je vais pas faire de l'ironie, je vais aller direct. Pas du tout enrichissante, vide, sans contenu, des cours complètement à côté de la plaque.
Sans support.
Sans support, parce que il faut pas tuer les arbres, quoi, ça coûte cher. des feuilles, on n'a pas les moyens. Donc, dispensé par des formatrices qui. Malgré tout, très gentil, c'est pas ça, mais qui n'ont pas le diplôme ni de secrétaire, ni qui pratiquent dans le médical, donc les trois. Du Excel 2007, pour ne citer que lui, ce qui peut faire rire, hein, puisqu'on est quand même en 2024. 25
maintenant, mais oui, même en plus.
Comme quoi, je suis encore restée au début de cette formation. Hein.
Bloquée.
voilà, je suis bloquée. Mais on a eu des cours de français de base, mais alors quand je dis de base, c'est vraiment les participes passés, ça fait toujours du bien de les rappeler. Mais bon, pendant 3 semaines, 1 mois, ça fait quand même un peu long, quoi. La dactylo, carrément inexistant.
Rien.
Bon, voilà. Comment on appelle ça? Les prises de notes. Ah oui, on a fait une prise de notes au téléphone. Entre guillemets, la prise de notes faisait 5 lignes et on est passé à autre chose, quoi. Des cours bâclés, des cours même pas vus du tout. Moi, aujourd'hui, alors où je veux pas, j'ai toujours pas vu un dossier professionnel dans mes mains, voire carrément même pas sur mon stage, hein, parce que j'ai fait plutôt un stage d'agent d'accueil. Donc voilà, tout ça pour vous dire le contenu, non. Non, on n'a rien appris.
Très faible.
On n'a rien appris, voire carrément.
Avec des débats
on a perdu notre
hallucinants
temps.
Sur faut-il se marier par amour ou par intérêt ou des choses comme ça.
Doit-on suivre ses envies? Là, en l'occurrence, on a essayé de les suivre, mais voilà.
C'est eux qui les ont déçus, hein, très clairement.
Ce serait à refaire les débats, ils ne seraient plus, à mon avis, du même sujet. Aujourd'hui, avec la force que ces femmes ont pris, on ne serait plus du tout dans les mêmes réponses.
Grâce à la fois votre rencontre et puis le combat que vous avez mené, entre autres, avec la CGT Chômeurs.
Exactement.
On a fait des belles rencontres.
C'est toujours ça, mais bon, c'était pas vraiment ce qui était décidé au début. Et toi, Isabelle, comment t'as vécu un peu cette formation et bon, combien de temps elle a duré? Et puis, un peu revenir un peu sur le contenu qui était complètement à côté de la plaque de ce qui était vendu à la base.
Pour moi, j'ai rien appris parce que la terminologie médicale, je la connais. Donc voilà. Et puis l'Excel, je connais que de nom, mais pas. J'avais jamais touché à l'Excel au niveau du
taf. Enfin bon, voilà. T'avais pas.
Non, pas du tout. J'avais fait des remplacements dans un cabinet médical. Donc, je prenais les prises de rendez-vous. Je faisais pas mal de choses. Mais je travaillais pas spécialement sur
ordinateur.
Si, je travaillais, mais pas sur Excel, sur un autre logiciel.
Donc, t'as rien appris.
Non, pas du
tout.
Alors,
donc, du coup.
Et je recherchais, excusez-moi, le plateau technique, soi-disant, était resplendissant. Il y avait même rien. C'était vraiment pauvre.
Il y avait
quelques ordinateurs portables, mais il n'y avait pas assez pour le nombre d'apprenantes que nous étions. Et puis, la pédale de transcription, elle est inconnue au centre de formation. Je l'ai touchée tous les jours sur mon lieu de stage, à l'hôpital André Grégoire, dans le stage que j'ai fait.
Donc, du coup, théoriquement, il devait durer combien de temps cette formation ?
Six mois.
Ok. En réalité, et bon, elle se découpait, ce que j'ai compris.
C'est ça. Il l'a découpée. Enfin, il l'a coupée en deux. avec évidemment l'accord d'une personne responsable, le fameux conseiller en entreprise, parce que c'est lui qui nous l'a annoncé. On nous l'a vendu très vite comme il aurait dû être financé par la région, mais ça n'a pas été fait. Mais vous inquiétez pas, je crois qu'à la fin de chaque mot il y avait ça ne vous regarde pas ou ça ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas.
On s'occupe.
C'était voilà. Toujours ne vous
ce
inquiétez
sera
pas.
Une POI. Voilà. Alors personnellement, on savait pas du tout ce que c'était. Je crois que c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre chez tout le monde et par moi-même aussi. Mais ça, c'est pas votre problème. Ça va être découpé en deux. Votre employeur, puisque le but d'une POI, c'est d'être embauchable à la fin. Votre employeur va prendre 4 ou 5 personnes. Il y aura de l'embauche. L'employeur qui devait normalement être là ce jour-là, donc c'est la fameuse pré-rentrée où on a eu tous les renseignements, je mets des guillemets, hein, vous ne le voyez pas, mais je mets des guillemets, les renseignements importants, alors qu'ils étaient tous erronés. Et puis en fait, c'était 4 mois pris en charge par l'employeur, bidon, et 2 mois de stage qui étaient pris en charge par le directeur du centre qui nous accueillait gracieusement dans ses locaux, or que nous n'étions pas là puisque nous étions tout en formation dans des lieux différents. Donc 6 mois, même avec donc coupé en deux, 4 et 2 mois pour répondre à la question.
Mais à la base, la formation était financée par la région normalement. Mmh. Et il s'avère que le premier jour de la rentrée, il nous disait « Vous inquiétez pas, on n'a pas encore de réponse pour le financement de la région, mais vous inquiétez pas, ça va se faire. » Et puis les mois passent, et puis au mois d'octobre, il n'y avait toujours pas de financement.
Alors que la formation avait déjà commencé.
Et il s'avère que, en fin de compte, elle n'a jamais été financée par la région parce qu'il n'y a plus de sous. Par la région, à cause de ces centres de formation bidons et autres. Et donc, ça a été soi-disant, il fallait chercher des tripartites. Ces fameuses sociétés.
Une subvention tripartite.
C'est voilà. Ça, c'est qu'en fait, et ça, on a mis du temps à reconstruire un peu le schéma. C'est que donc ça devait être une formation de 6 mois avec l'obtention d'un titre professionnel d'assistante, de secrétaire médico-social. Mais en fait, comme il n'y a pas eu de financement en région, France Travail, en fait, là, de manière unilatérale, et manifestement, c'était une décision qui n'était pas décidée vraiment, de le transformer en POI, donc préparation opérationnelle à l'embauche individuelle, qui est un dispositif complètement différent, qui est un dispositif qui consiste, qui ne donne pas lieu à un titre professionnel, qui c'est pas du tout le même programme, et qui, en fait, en principe, est une préparation de 2-3 mois pour être directement embauché. Donc ça donne lieu à la fameuse convention tripartite entre France Travail, un organisme de formation et un employeur, où France Travail s'engage à verser de l'argent, en montant là en l'occurrence autour de 9000 euros par tête, par stagiaire, à un organisme de formation pour que l'organisme de formation prépare les stagiaires au travail qu'elles vont réaliser dans l'entreprise qui leur aura préalablement fait signer une promesse d'embauche.
Mais c'est quand même intéressant parce qu'au bout du compte, ça fait une jolie somme. Hein.
Oui. Ça fait une jolie somme, ouais. Mmh. Les 25, ça fait 250 000 euros.
250 000 euros.
À peu près, quoi.
Oui, oui, oui.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui a foutu le bordel dans les dates parce que, en fait, la POI, c'était 2 mois. Donc, du coup, elles ont eu une première formation de 2 mois. Sauf qu'en fait, on leur a pas dit. Donc en fait, on leur a pas dit que c'était une POI et que normalement, au bout de 2 mois, c'était plus financé. On leur a laissé croire que c'était 6 mois et qu'il y aurait un titre professionnel et qu'en plus, il y aurait une embauche à la clé. Sauf qu'il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait pas de titre professionnel, que ça ne durait que 2 mois et qu'en plus, les deux entreprises, Osmonia et EasySec, se sont avérées être des entreprises de photocopie. Donc des employeurs inexistants. Et ça, on avait déjà dénoncé ça, nous, la CGT Chômeurs, l'année dernière, avec un autre organisme de formation qui s'appelait Kelly Formation. C'était exactement le même topo, c'était une arnaque à la POI. Mais ce passage, en fait, entre financement région et POI a permis à France Travail de financer cette formation. Sinon, elle ne pouvait pas. Il fallait que France Travail trouve un moyen de le financer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a eu des conséquences très concrètes, puisque finalement, en fait, à partir du 22 décembre, donc, qui était la date de la fin de la POI, en théorie, en fait, beaucoup de filles n'ont plus été indemnisées par le RFFT, qui est le revenu de formation pour les privés d'emploi qui sont en fin de droit, qui ne prennent pas l'assurance chômage.
Passer en prime d'activité pour certaines qui sont passées d'un RSA, si je me trompe, Victoire me corrigera, à une prime d'activité. Donc, elles ont perdu jusqu'à 500 euros par mois.
Alors même qu'elles ne devaient pas être RSA, elles devaient être RFFT. Donc, il y a eu des gros problèmes de financement. Et en fait, les filles n'ont pas du tout touché les indemnités qu'elles devaient toucher. Et donc, il y a des filles qui se sont retrouvées à zéro. C'est-à-dire à être en formation au mois de janvier, formellement, et être en stage. mais sans être rémunérée. Donc gratos, quoi. Et à payer tous les repas, les gardes d'enfants, ouais. parce que beaucoup étaient mères d'enfants en bas âge, les trajets, tout. Donc à devoir, y compris certaines, s'endetter pour pouvoir poursuivre cette formation, parce que personne ne leur avait jamais dit. Mais en fait,
que c'était terminé.
Bah, que c'était terminé, voilà. Que non, il n'y aurait pas, il y aurait pas d'examen, parce qu'il s'est avéré qu'il n'y a pas eu d'examen, finalement.
C'est quand même, ce qui est quand même incroyable aussi dans cette histoire, bon, c'est l'argent foutu par les fenêtres, hein, absolument incroyable. Oui. C'est, je veux dire, c'est notre fric, hein, quand même. Mais c'est aussi, quand tu vois, par rapport au petit topo du début de l'émission, le flicage qu'il peut y avoir par rapport aux chômeurs, aux précaires, et par rapport aux associations de plus en plus. Et puis, en même temps...
Il n'y a pas de suivi.
Carrément, une... Enfin bon, là, il y a deux entreprises complètement bidons.
Créées le même jour, 5 jours avant.
Et ça, vous vous en êtes rendu compte. Et eux aussi, ils auraient pu s'en rendre compte quand même.
Surtout, France Travail a quand même été mis au courant des dysfonctionnements, parce qu'il y a des problèmes de début de formation. En fait, elles ont rentré en formation le 16, elles n'ont été déclarées qu'à partir du 22, donc elles n'ont pas été payées la première semaine de formation.
D'accord.
Et ça, en fait, elles ont... et puis ça a généré plein de problèmes sur les demandes d'aide au transport et tout ça. Donc en fait, très rapidement, les filles ont interpellé leur conseiller France Travail. Et donc, France Travail était de fait au courant qu'il y avait un petit truc qui fonctionnait pas dès le départ. Et en fait, ils ont attendu le mois de mars, quoi, fin février, et que bon, les filles, tapent vraiment du poing sur la table et disent maintenant ça suffit. Et je salue leur courage parce que tout le monde n'a pas le courage de faire ça, et surtout quand vous êtes dans une situation de grande précarité, vous avez quand même tendance à dire bon, je fais pas de vagues parce que ça va,
ça va être pire.
Et que là, elles ont tapé sur la table pour que France Travail commence à prendre en charge cette question. Alors que dès le départ, en fait, nous, on a vu tous les mails, tous les échanges qu'il y avait avec France Travail entre les filles et France Travail. Et en fait, il y a de très nombreuses alertes.
Oui, en plus, on est toutes de France Travail différents. On se dit, à un moment donné, il y en a quand même bien un qui va nous croire et qui va remonter l'affaire. Et c'est... Eh ben non.
Que dalle.
Et ben après, ils ont peut-être remonté, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas...
En interne.
Voilà,
c'est resté comme ça, quoi.
Oui.
D'accord. Et donc, dès le départ, vous avez commencé à vous consulter entre vous pour essayer de comprendre la situation dans laquelle vous étiez.
Oui, enfin, Isabelle et moi, oui, c'est sûr. On n'avait même pas... On disait juste des mots, genre le nom de notre futur employeur, et on avait un fou rire parce qu'on avait fait les mêmes recherche et on était tombé sur les mêmes choses qui nous semblaient très étranges, quoi. Donc nous, on a fait des recherches, on a essayé d'informer les filles, mais après c'est compliqué. C'est compliqué parce que de un, ce monsieur manipulait très 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 bien, il avait des très beaux mots, quoi, à chaque fois. Et puis surtout, nous, on est allé au compte-goutte parce qu'on se disait, bah, elles vont quand même avoir, on peut pas faire du mal, enfin on peut pas casser les rêves, parce que pour certaines, c'était pas forcément leurs rêves, mais c'était l'actuel. Enfin, c'est ce qu'elles avaient. Voilà une solution de s'en sortir. Oui, c'est ça. Vous avez trouvé les mots. Mais c'est surtout ça. Et on est allé à tâtons. Donc, on s'est dit aussi, on va attendre la fin de la formation. On aura toute une formation digne de ce nom. Et pas du tout. Il y avait rien. Et puis après, je pense qu'on s'est dit aussi, on va attendre le stage, parce que le stage, ça permettra peut-être aussi
à
ces dames.
Un employeur.
Voilà, tout à fait. Donc, on ne disait rien, mais il y avait des choses tellement flagrante. Moi, pour ma part, j'ai fait des vidéos, ce n'est pas très bien, mais bon, j'ai fait des vidéos même des lieux, c'était très sale. Je vais passer des détails, mais c'est une atmosphère pesante quand même, ce centre. On ne peut pas dire
qu'il y avait des choses qui n'allaient pas.
On y allait toutes à reculons, hein, franchement.
Je
ne
sais pas comment il a fait pour avoir la qualité pour ses locaux. Il y avait des choses vraiment...
Alors, les locaux, les formatrices, enfin, il n'y a rien qui allait. Quoi.
Rien du tout.
Et vous avez eu finalement une formation professionnelle à l'intérieur d'une entreprise?
Vous parlez des stages?
Oui,
c'est ça,
du stage.
Et en fait, les stages, on les a choisis nous-mêmes. Enfin, on les a trouvés nous-mêmes parce que on a pris ce qu'on trouvait. Pour ma part, moi, j'ai été agent d'accueil. J'ai pas été secrétaire médicale pendant ce stage. En fait, on s'est retrouvé beaucoup agent d'accueil parce que on ne donne pas forcément sa confiance à regarder des dossiers professionnels à des femmes. Et je peux comprendre qu'ils sont pas encore diplômées. Donc moi, je vais parler pour ma part. C'est pas le stage que je voulais. Le stage que je voulais à la base, je l'avais. C'était un gros truc. Je vais le dire. J'étais à Sainte spontane. J'avais fait tout ce qu'il fallait pendant 3 mois. J'ai quand même passé des tests et tout, juste pour un stage. Mais le monsieur voulait m'engager après. Mmh. Et en fait, j'ai découvert une semaine avant de rentrer dans ce stage qu'il fallait des vaccins. Parce que c'est du public. C'est du public. Mais il fallait faire 5 vaccins en 5 jours et être en bonne forme. Et je ne l'étais pas. Mais j'en ai parlé aux formatrices qui m'a dit j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, je n'ai pas eu le stage que je voulais. Donc, je me suis retrouvée dans un truc d'accueil. C'était pas mal. Mais non.
Ouais, ça correspondait pas au niveau.
En 4 jours, j'avais fait le tour. Pour ma part.
Ce que t'avais envie de faire.
Pour ma part.
Oui, et puis par enfin, tu vois, tu pointes du doigt Valérie le fait que bon, tu peux comprendre qu'on puisse pas faire confiance à des stagiaires, des choses comme ça. Enfin, je fais une petite parenthèse, mais n'oublions pas qu'un stage est un stage.
Oui, tout à fait.
Et qu'un stage, normalement, vous devez être tutoré. Et qu'un stage est fait pour apprendre. Donc, on n'est pas censé vous mettre sur un poste de travail toute seule à faire quelque chose. Et ça, c'est un énorme abus des employeurs qui, en fait, se permettent d'utiliser des stagiaires parfois pendant très longtemps pour faire du salariat déguisé, donc de payer quand ils sont rémunérés, puisque les stages de moins de 2 mois sont pas obligatoirement rémunérés, quand ils sont rémunérés, de payer quelqu'un 600 balles plutôt que de le payer à la hauteur de la qualification du poste.
Et toi alors?
Et ben moi j'ai eu un très bon stage, j'ai choisi vraiment mon stage.
J'avais il y en a au moins une.
J'avais 2 tutrices, j'ai été reçue donc lors de mon entretien par la coordinatrice des secrétaires médicales qui a vu dès le départ que ma convention n'était pas conforme. Donc elle m'a dit de toute façon vous êtes là ici pour apprendre. Donc vous inquiétez pas, vous aurez 2 tutrices et effectivement
Après je vais faire une petite parenthèse, je pense que le statut qu'elle avait d'aide-soignante a aussi joué.
Bien sûr.
De toute façon évidemment. Oui, c'est ça.
Mais après ça c'est
il y en avait j'étais dans le service de où je venais juste avant, donc service gériatrique. Donc j'ai fait plus de 20 ans dedans.
Les stagiaires qui étaient il y en a 3 qui en fait était déjà secrétaire médicale, mais qui n'avait fait cette formation que pour obtenir le titre professionnel. Une qui en fait était de manière informelle, de manière informelle pendant plus de 7 ans secrétaire médicale. Une autre qui était secrétaire médicale au Cameroun, mais qui dont le diplôme n'a pas été reconnu ici et qui faisait cette formation juste pour le titre professionnel. Donc en fait, donc même l'idée de dire elles ont fait leur stage et ça leur a permis d'acquérir des compétences. Certes, c'est un peu la seule porte de sortie de certaines qui aujourd'hui en fait le stage s'est très bien passé et donc du coup. Espérer en tout cas avant qu'on fasse l'action et qu'on ait l'engagement que le titre professionnel soit passé, espérer rentrer par la petite porte. Mais en fait, c'était l'absence de titre professionnel. Était un vrai problème pour beaucoup, beaucoup d'entre elles.
Carrément. Oui. Et alors, donc du coup, vous avez été voir la CGT et hier, vous avez fait un rassemblement devant France Travail
de la région
de Noisy-le-Grand. Alors, quelles étaient vos revendications? Qu'est-ce que vous demandiez?
Ça, je vais plutôt laisser Victoire parler, peut-être. Enfin, moi, je demandais... moi, mon objectif, c'est de rendre l'argent à ces femmes, quoi. Donc là je vais parler avec mon cœur. Pour moi, le gros combat, c'est de rendre d'abord l'argent aussi de ces femmes-là, de leur proposer autre chose, c'est-à-dire soit des stages. On a quand même une fourchette de femmes qui ont entre 20 ans et 63 ans. Donc, on n'a pas toutes les mêmes envies. Et aujourd'hui, on a surtout aussi cette peur de retourner en stage, donc je voulais aussi qu'elles aient le choix de choisir est-ce qu'elles veulent refaire une formation, est-ce qu'elles veulent rester là dans ce secteur-là, parce que pour certaines, elles ont été dégoûtées et c'est légitime aussi. Moi c'était mes revendications, c'était sur le titre, avoir le titre professionnel, bien sûr, avoir cette possibilité de passer à l'AFPA. Pour moi, c'était l'AFPA, parce que pour moi, c'est un organisme, je crois que j'ai confiance. C'est peut-être le seul que j'ai confiance aujourd'hui. Donc ça, c'était ce qu'on envisageait, quoi, vraiment. Et surtout, nous rendre nos droits, parce que nos droits, le droit à la mobilité, par exemple, a été bafoué avec cette arnaque. Il y avait tout cet argent du transport, continuer à avoir permettre à ces femmes de retrouver un emploi derrière. Il nous fallait absolument aller en stage. Il nous fallait des moyens d'y aller. On n'avait plus d'argent à ce moment-là. En janvier, février, mars, on n'avait rien du tout.
Rien, zéro.
Enfin, pour certaines, elles n'avaient rien. Pour d'autres, elles avaient 200 euros. Pour ma part, moi, je n'avais rien. Donc, déjà, moi, c'est facile. rien. Et pour certaines, beaucoup, beaucoup moins. Et puis, toujours ce problème de garde d'enfants, il faut payer. Enfin, voilà, qui aurait pu être négocié, mais pas de.
Non, mais c'est important ce que tu dis aussi là, ce que tu soulignes, c'est qu'à la fois, il y a une immense arnaque avec notre argent, l'argent public, mais il y a aussi le fait que ça met dans la merde, mais concrètement, quoi, pendant des mois, les gens. On ne se rend pas bien compte, mais quand on n'a pas d'argent d'avance,
c'est ça.
Tu touches pas pendant un mois, deux mois, t'as pas d'argent, mais t'es juste dans la merde. Mais grave.
Puis en plus, symboliquement, ça s'est arrêté le 23 décembre, donc on est quand même aux fêtes de fin d'année.
Joyeuses fêtes.
Ça joue, quoi. Je veux dire, vous arrivez au mois de janvier avec des augmentations. L'augmentation de. On a eu l'augmentation du pass Navigo pendant. Voilà, on s'est pris 4 ou 5 euros, ça n'allait rien du tout. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et donc tout ça a joué aussi. La motivation, elle est quasiment plus là quand on n'a pas d'argent non plus. Donc.
Ouais. Bah ouais, Isabelle, toi, alors du coup, si tu veux rajouter un truc par rapport à ce que vous alliez faire devant France Travail, j'ai du mal à France Travail
de Noisy-le-Grand. Par rapport à plein d'aides qu'on n'a pas eues suite à les dates erronées. Donc, tout était bloqué. Donc, c'était pour... Et puis, qu'on a été bafoués quand même. Au niveau santé, il y a des répercussions chez toutes, minimes comme très graves. Manque de sommeil, des troubles...
La dépression.
De la dépression, beaucoup de dépression. Financière pour certaines, ils se sont endettés.
Ouais, carrément.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Alors, France Travail, c'était énorme. C'est pas toujours le cas, parce que c'est... Enfin, je veux dire, avant qu'un directeur régional de France Travail s'excuse, en général, il faut vraiment, vraiment qu'ils aient fait une connerie. Là, ils ont vraiment fait une connerie, parce qu'ils avaient été alertés depuis le début. Donc déjà, symboliquement, ils étaient dans leurs petits souliers. Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'ils se sont platement excusés. On était attendus avec une délégation de tous les pontes. On avait même droit à une bouteille d'eau. Donc incroyable. Donc ça, symboliquement, c'était très important. C'est-à-dire la reconnaissance de dire, voilà, oui, on a déconné. On s'en excuse. Après, évidemment, que ça suffit pas, parce que certes la dignité compte, mais à un moment donné, il faut bouffer. Ouais. Donc nous, on demandait qu'elles perçoivent l'intégralité des indemnités auxquelles elles avaient droit, que ce soit l'ARE, que ce soit le RFTT. Ben c'est des dispositifs de financement qui sont un peu compliqués. On va pas rentrer dans les détails. Ouais. Donc ça, nous, on exige et pas sur des périodes. Il nous dit oui, alors on va voir les dates de stage et puis on va indemniser. On nous dit non, on veut du début de la formation, du début réel de la formation, donc le 16 septembre, à la fin réelle de la formation, en tout cas qui est affichée, c'est le 24 mars. On veut que tous les jours soient indemnisés, donc ça on l'a obtenu. Les aides à la mobilité, c'est-à-dire les aides au repas et les aides au transport. Alors il faut savoir que peu d'entre elles en fait pouvaient avoir ces aides-là en théorie, parce que il y a une règle très, très débile. Qui consiste à dire que si t'habites à moins de 30 km, t'y as pas droit. Ouais. Donc du coup, ce qui est assez cocasse, parce que ça t'habite à 28 km, tu rentres chez toi pour manger, c'est sûr, c'est vrai.
Bah, évidemment.
Donc du coup, ça, nous, on revendiquait, on disait, écoutez, il y a eu préjudice. Et en l'occurrence, votre règle, elle est complètement débile, parce qu'en fait, personne ne peut y accéder pour pouvoir avoir ces aides à la mobilité. Donc nous, on les exige dommage et intérêt, je sais pas comment on dit, du préjudice. Donc ça, ils l'ont accordé. Donc après, à voir, et on va continuer à mettre la pression parce que pour le moment, c'est pas encore fait. Donc du coup,
c'est ce que je voulais te demander, parce que on sait ce que c'est les promesses.
On va être extrêmement vigilant là-dessus. Là, pour le moment, nous, on continue en fait à travailler ensemble pour comptabiliser exactement ce qu'on réclame. Les aides à la garde d'enfants aussi, et c'est pareil, c'est extrêmement restrictif pour avoir les aides à la garde d'enfants. Mais on l'a obtenu pour toutes de manière dérogatoire.
Est-ce que c'est écrit? Ils vous ont écrit un truc ou non, c'est juridique pour l'instant?
Non, mais bon, ça, ils l'ont. Bon, on a des moyens de leur faire respecter leur. C'est juste que, en fait, c'est une victoire, mais la véritable victoire aura lieu quand les filles auront leur titre professionnel et quand tout ce qu'on exige et tout ce qu'ils ont promis sera sur leur compte. Donc on lâche pas l'affaire. Hein, pour le moment, on est encore dans le processus. Et surtout, on a obtenu, donc comme disait Valérie, qu'ils prennent l'engagement que toutes les filles puissent passer le titre professionnel via l'AFPA. donc qui est l'organisme de formation professionnelle publique. Voilà, et avec des modulations individuelles, c'est-à-dire que comme la formation était vraiment de mauvaise qualité, nous on les a alertés en disant oui, mais si vous leur faites passer dans 2 semaines, 3 semaines, il y a peut-être des filles qui l'auront pas, parce qu'en fait elles ont pas eu de stage, parce qu'elles ont pas appris ce qu'elles auraient dû apprendre, et donc du coup ils vont faire un examen blanc via l'AFPA et ils vont financer l'examen. Et que toutes celles qui se sentiront prêtes le passeront le plus rapidement possible, et l'engagement que toutes celles qui n'ont pas eu l'examen blanc et qui ne sont pas prêtes seraient suivies de près et accompagnées par l'AFPA jusqu'à ce qu'elles passent leur titre professionnel. Pour celles qui veulent le passer, et que voilà, toutes celles qui veulent faire une autre formation parce que ça les a dégoûtées et elles ont envie de faire autre chose, soient financées intégralement cette formation-là et que ce soit fait avec l'AFPA et non pas avec un organisme de formation privée. Donc ça, c'est ce qu'on a, on a obtenu. On a demandé aussi la prolongation des droits, donc des droits à l'ARE et des droits RFFT, le temps qu'elles trouvent du travail. Parce que finalement, voilà, en attendant, il y en a quand même qui sont à zéro. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à obtenir, donc on est en train de négocier là-dessus. C'est compliqué à obtenir parce que réglementairement, en fait, je crois qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc du coup, c'est plus compliqué. Mais on va continuer voilà, à leur mettre la pression pour qu'ils nous donnent en tout cas une réponse claire, puis qu'on voit qu'on décide ce qu'on décide à ce moment-là. Voilà, c'est tant financièrement que symboliquement. Voilà, France Travail a été contraint de reconnaître son erreur. Après, voilà, maintenant, quels effets ça aura dans l'avenir ? Est-ce qu'ils vont davantage contrôler ? Ils vont davantage de manière... J'aurais tendance à dire qu'ils ne le feront pas de manière structurelle. Ceci étant dit, en Île-de-France, à mon avis, ils vont un peu serrer les fesses, maintenant. Voilà, ils vont avoir un peu peur que ça leur réarrive. Donc oui, de fait, oui, ça améliorera un peu les choses quand même.
Ça crée un précédent, quoi.
Bah, c'est que dès qu'on les alertera ou dès qu'un stagiaire les alertera sur quelque chose maintenant, avec notre aide ou pas, je pense qu'ils vont aller regarder très très rapidement parce qu'ils auront peur que ça recommence.
Oui, parce que de toute manière, je pense que votre situation, c'est pas un cas isolé.
Ah, pas du tout.
C'est pas du tout un cas isolé. Donc, il y a plein de formations
Je vais donner les mots de Victoire, et c'est la première fois que je vais les dire. Mais en effet, tant qu'on laissera des petits arnaqueurs comme ça, parce que c'est profiter et manipuler la faiblesse des gens, des femmes en l'occurrence. Donc, moi, je parle au nom des femmes, enfin des femmes de ma formation. Bon, j'essaye aussi au nom de toutes les femmes, mais bon, de la mienne déjà. Mais voilà, tant qu'on laissera ces arnaqueurs, c'est rare quand je dis le mot, mais vraiment, c'est ça, quoi. Jouer avec nous, comme vous dites, il y en aura toujours, et il faudra vraiment surveiller. Et je m'engage aujourd'hui aussi à surveiller et à bien écouter quand j'entendrai ça, et à défendre aussi les gens aux côtés de Victoire. Donc, merci déjà à la CGT. Je voulais encore remercier Victoire. Merci à toutes
et
les personnes.
Du comité, et voilà. Du
exactement, à tous les camarades, et merci à tout le monde. Et on a été écoutés, et très très vite, hein, très vite. Moi, dès que j'ai contacté, j'ai eu Victoire le lendemain, et surtout, on a été cru, parce que ça, c'est difficile de se faire écouter, ok, mais qu'on croit en nous, c'était très très difficile aussi. C'était tellement gros,
franchement,
c'est tout le temps des rebondissements, d'arnaques. À un moment donné, les gens, ils me disaient, ça fait beaucoup, tu es sûre, Valérie ? Je dis, oui, c'est vrai.
Ouais. Moi, si je peux juste rajouter une chose, parce que oui, bien sûr que évidemment que le fait d'avoir contacté la CGT, c'est pour ça qu'on existe aussi, hein, la CGT Chômeurs, c'est pour se défendre collectivement et pour apporter un soutien et une aide logistique, hein, y compris pour ces combats-là, parce que nous-mêmes, on est des chômeurs, hein, qui s'auto-organisons, c'est le principe même de la CGT, l'auto-organisation des travailleurs. Ceci étant dit, moi, ce qui a permis en fait que cette lutte, elle existe, c'est précisément parce que petit à petit, ça partait de 2 filles, 3 filles, puis 5, puis 6, puis 7, puis 10, elles y ont cru, et qu'en fait, à un moment donné, elles ont décidé de relever la tête. Et moi, je leur avais dit le départ. Moi, si j'y vais pas toute seule, falloir que vous soyez là. Oui, c'est c'est parce qu'elles ont relevé la tête qu'elles ont dit maintenant, ça suffit. Et on refuse de se faire avoir, que ça aboutit. Donc la conclusion à laquelle nous, on en arrive, c'est qu'en fait, on a raison de dire et de répéter que finalement, que la victoire, elle est possible à partir du moment où on lutte et à partir du moment où on se dit on a des droits et en fait, on peut les faire respecter. Et en fait, c'est ça la réalité. Et beaucoup de gens se disent non, en fait, on n'a plus aucun droit maintenant. C'est je vais me battre contre Goliath et Goliath est trop fort pour moi. Alors qu'en fait, la réalité, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, il suffit même peu. Enfin là, on parle de 30 personnes hein, qui se sont mises sur le sujet, dont 25 qui étaient directement concernées. Mmh. Et ben en fait, on obtient des belles victoires. Donc en fait, il suffit pas de. En fait, il faut y croire.
Ouais, non, puis bon, même si tu l'obtiens pas, au moins tu sais que bah, t'as fait ce que t'as pu, oui, quoi, parce que celui qui fait rien...
Mais on l'obtient, et en fait on l'obtient pratiquement à chaque fois,
ouais.
En vérité, on l'obtient pratiquement à chaque fois. Il faut juste persévérer, être patient, ne pas perdre espoir et pas rester tout seul.
Ok, d'accord, bon, super, bon, bah, c'est bien, j'espère que vous allez obtenir, mais visiblement, vous lâchez pas.
Ah non,
parce
non,
que
non,
là, les promesses, c'est une chose,
exactement.
La réalité,
les fesses, c'est
autre chose, donc là, exactement. Vous restez extrêmement vigilante quant à cette affaire. Bah, super, et il y a des permanences, comment vous contactez la CGT chômeur?
Alors, en Ile-de-France, pour le moment, on a une seule permanence qui a lieu tous les vendredis matins de 10h à 13h à l'Union locale CGT du 18e arrondissement de Paris, 42 rue de Clignancourt. Et on a une, voilà, on est aussi contactable par mail.
Alors, cgtchômeur.idf@gmail.com.
Voilà. Vous pouvez aussi nous contacter par mail. Désolé, c'est un peu à rallonge.
Bah non, bah
et bon. Sinon, on a aussi, la CGT Chômeur Nationale a un site internet. Donc, il est aussi possible de la contacter par ce biais-là ou par n'importe quelle autre structure de la CGT, les unions locales, y compris les syndicats. Ils peuvent vous renvoyer vers nous. C'est ce que, par ailleurs, ce qui s'est passé avec Isabelle et Valérie qui avaient contacté l'Union départementale CGT de Seine-Saint-Denis, qui nous a renvoyé et d'autres permanences sont en train d'être mises en place, notamment en 93. Donc on essaye de diversifier un peu parce que parfois ça fait loin.
Bon, super. En tous les cas, ça fait plaisir de vous avoir.
Merci
à
vous.
Parce
que
il faut dénoncer aussi tous ces trucs-là et partir de cas concrets,
tout à fait.
D'histoires précises avec des gens en chair et en os qui subissent ce système-là et qui l'acceptent pas. Donc merci beaucoup pour votre
merci de l'invitation,
lutte et merci à Victoire. J'espère qu'on reverra bientôt.
La fréquence Paris Pluriel qui laisse toujours, qui est un des seuls médias qui est toujours attentif à la question du chômage et de la précarité, qui est un sujet qui est peu traité, c'est un vrai problème qui concerne des millions de gens.
Qui nous concerne aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on y est particulièrement sensible, de fait. Donc merci beaucoup. Et Joël, tu voulais faire une dernière info, parce que comme on est sur des trucs un peu positifs, il en faut quand même de temps en temps dans ce climat particulièrement angoissant. Une autre info positive.
Eh bien justement, puisqu'on va aller du côté de Pontoise, puisque hier avait lieu le délibéré du procès qui opposait Siam Toisy et Eugénie Barbeza. Donc Siam Toisy était infirmière à l'EHPAD du château de Neuville dans le Val d'Oise. Et bien toutes les deux, donc Eugénie Barbeza, journaliste et co-animatrice d'une émission sur Radio Cause Commune, elles étaient poursuivies toutes les deux pour diffamation. Et bien l'ancienne direction de l'EHPAD a été déboutée, puisque c'est cette ancienne direction qui est poursuivie pour diffamation. Donc elle a été la direction a été déboutée. Donc c'est quand même, elle a été déboutée, elles doivent donc 13 000 euros, c'est-à-dire 10 000 euros pour Siam, et 3 000 euros pour Eugénie, et aussi plus les frais d'avocat. Donc, ce qui est quand même une bonne chose en ces temps où on gagne pas beaucoup, mais là, du coup, ça gagne. Il faudra attendre la suite s'il n'y a pas justement un appel de la direction. Mais en tout cas, c'est vraiment sur de bonnes voies. Voilà. Hein. C'était important de le signaler. On aura un reportage qu'on diffusera dans les jours qui viennent. Nous avons été sur place hier et c'était vraiment très bien, quoi.
Ouais, ça fait plaisir. Bon, en tous les cas, on vous quitte pour aujourd'hui et on se retrouve lundi prochain à 12h30 jusqu'à 13h30. Bon week-end.
Bon, je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Wait a minute. Gooby.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion. Du lundi au vendredi, de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.